c'est tout de suite le moment de retrouver Portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une femme sportive.
Oui, tout à fait, une femme sportive dont le nom est connu. Il s'agit de Suzanne Lenglen. Le nom est connu parce que un court du stade de Roland-Garros où se déroulent chaque année les internationaux de France de tennis, le court numéro 2, porte son nom. Mais pour autant, est-ce qu'on connaît sa vie et son parcours? Je pense que non, donc c'est la raison pour laquelle je la présente aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une petite fille et fille de riches industriels. Suzanne Lenglen, Rachel Flore Lenglen, est née le 24 mai 1899 à Paris, dans le quartier de Ranelagh, dans le 16e arrondissement. À la mort de son frère de 3 ans, son père Charles Lenglen décide de se consacrer à sa fille, ayant très tôt remarqué ses qualités de souplesse, d'adresse et d'agilité. La famille séjourne à Nice durant les mois d'hiver, à côté des courts de tennis de la Villa Impériale. Suzanne voit les tournois que se disputent les Anglais au printemps et son père lui offre sa première raquette de tennis alors qu'elle n'a que 10 ou 11 ans. Elle affronte alors les joueurs anglais en villégiature à Nice. En 1912, elle dispute son premier tournoi. En 1914, à 15 ans, elle est sacrée championne du monde sur terre battue à Saint-Cloud. Charles, son père, est entraîneur très exigeant, en cela pionnier en la matière. On sait que les entraîneurs peuvent être même quelquefois maltraitants pour les adolescentes. Donc Charles, son père, fait jouer Suzanne exclusivement contre des hommes pour mieux la guérir et impose à sa fille d'autres disciplines comme la danse et la natation. Elle exerce ainsi ses muscles et travaille sa souplesse. En 1919, âgée de 20 ans, elle remporte le tournoi sur gazon de Wimbledon. À partir de ce moment, elle enchaîne les victoires dans les plus grands tournois internationaux et devient imbattable. Elle fait du tennis son choix de vie. Elle s'y consacre totalement. Elle bouscule les codes d'une société française majoritairement conservatrice à l'époque, impose son style révolutionnaire qui allie puissance, vitesse et danse. Elle impose aussi une nouvelle façon de s'habiller. Elle a raccourci sa jupe plissée sous le genou, montre ses jambes, porte un bandeau rose dans les cheveux. Elle ose jouer les épaules nues. Elle fait sensation en entrant sur les courts maquillée, portant une tenue jamais exhibée, non seulement sur les courts de tennis, mais aussi dans la vie quotidienne des femmes. C'est pourtant une tenue toute simple, t-shirt sans manches, décolleté en V, jupe plissée raccourcie, chaussures souples, blanches, assorties. Ses robes lui procurent une grande liberté de mouvement, un jeu très aérien, telle une danseuse. Dévoilant ses bras, son décolleté, ses jambes, elle apparaît comme l'exemple même de la femme sportive accomplie, libre, et se démarque ainsi des autres joueuses. Malgré son visage ingrat, les grands couturiers se l'arrachent. Jean Patou en fait son égérie. Il lui confectionne ses tenues. Elle ose même introduire de la couleur dans ses tenues à Wimbledon quand seul le blanc est autorisé. Ceci alors que les Françaises sont encore enfermées dans leur rôle traditionnel de femme au foyer. Mais en même temps, c'est l'époque où commence le combat suffragiste pour le droit de vote. Nous l'avons vu dans le portrait numéro 2, celui d'Hubertine Auclert. Ainsi pionnière dans son jeu, téméraire dans le choix de ses tenues, puissante, talentueuse, élégante, capricieuse aussi, elle semble le symbole de l'émancipation féminine par le sport, même si elle est une privilégiée. Seules les femmes issues d'une certaine classe sociale riche, sans souci d'argent, peuvent s'adonner au plaisir des loisirs et du sport. On la surnomme la divine ou encore l'invincible. Son palmarès est impressionnant, 241 titres remportés. Entre 1919 et 1926, Suzanne est pratiquement imbattable dans tous les tournois. Elle est sextuple championne du monde sur terre battue à Paris et sur herbe à Wimbledon. En 1920, elle remporte la médaille d'or aux JO d'Anvers en simple dame et double mixte. C'est une réussite à 98%, un record inégalable aujourd'hui. Le 26 février 1926, pour la plus grande gloire de la France, elle remporte ce qu'on a appelé le match du siècle en battant l'États-Unienne Helen Wills à Cannes. Toutefois, elle refuse de faire du tennis féminin une spécialité. Elle se passionne davantage pour l'universalisme et la mixité dans le tennis que pour les revendications spécifiques des joueuses. Alors que ces dernières luttent pour ne plus être reléguées au second plan et s'affranchir de la domination masculine, Suzanne Lenglen, elle, est adulée et soutenue par les hommes. C'est sans doute pourquoi elle entretient des relations difficiles avec les femmes. Elle suscite énormément de jalousie et d'animosité de la part de ses adversaires féminines et elle a peu d'amis. En 1926, survient une coupure dans sa carrière. Elle devient professionnelle et pour cela est exclue du circuit amateur par la Fédération française de tennis. Elle entreprend alors une tournée aux États-Unis d'Amérique où elle rencontre Charles Baldwin, rencontre sans lendemain car il ne divorcera pas. Au bout de 2 ans, la tournée est en faillite et elle rentre en France. Alors son point faible est sa santé défaillante. En 1928, en septembre, elle se retire définitivement de la compétition parce qu'elle est malade. Trop dépendante de ses parents qui l'accompagnent partout, elle a du mal à prendre son autonomie. Ses relations amoureuses sont des échecs. Elle n'a pas de vie personnelle, de vie privée. Sa santé est fragile, le surmenage et la nervosité l'épuisent. Coqueluche, toux, jaunisse, insomnie. Le milieu du tennis commence à lui reprocher ses crises de nerfs et ses sautes d'humeur. Pourtant, en 1928, elle devient quand même la première femme admise au comité technique de la Fédération française de tennis. En 1936, elle ouvre une école de tennis pour les jeunes et dispense des cours à Auteuil. L'objectif de Suzanne Lenglen est de prouver que le tennis peut être un sport populaire alors qu'il est réservé aux plus riches. Donc, objectif noble. Elle souhaite que les sports fassent partie intégrante de l'éducation de la jeunesse. Elle est très moderne en ce sens. Elle écrit 2 ouvrages pour promouvoir l'enseignement de son sport selon sa méthode. Premièrement, un ouvrage intitulé « Initiation au tennis, principes essentiels et préparation physique » qui date de 1937. Le deuxième s'appelle tout simplement « Tennis » où elle met au point une technique gymnastique respiratoire adaptée à la pratique. Victime d'une leucémie foudroyante ou d'une anémie selon d'autres sources, elle meurt le 4 juillet 1938 à Paris à l'âge de 39 ans. Elle est enterrée au cimetière de Saint-Ouen. Sa vie a été courte, mais sa carrière intense. Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale, remet à sa mère, à titre posthume, la croix de la Légion d'honneur pour les services rendus par Suzanne Lenglen à la cause de l'éducation physique et sportive. Suzanne Lenglen fait partie intégrante de notre matrimoine parce qu'elle a démontré que, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le portrait numéro 4, celui d'Alice Mia, que le sport est émancipateur, libérateur pour les filles aussi, sans pour autant souhaiter pour elles toutes la même vie que celle de Suzanne Lenglen, parce que, comme on l'a vu, malgré la gloire, elle ne nous paraît pas très enviable, cette vie. Alors, elle a le cours numéro 2, qui s'appelle Suzanne Lenglen, à Roland-Garros. Le cours numéro 1, Philippe Châtrier, c'est un homme, bien sûr. Numéro 1, un homme. Numéro 2, une femme. Le parc Omnisport, Suzanne Lenglen, 2 rue Louis-Armand, dans le 15e à Paris aussi. Voilà, alors je vais citer mes sources, comme la dernière fois. C'est la même que la dernière fois, c'est-à-dire Parisienne de Malka Markovitch. Parisienne, ces femmes qui ont inspiré les rues de Paris. Et puis un article qui s'appelle « Suzanne Lenglen, la divine » de Isabelle Tréhou, un document qui m'a aimablement été transmis par le comité départemental olympique et sportif des Alpes de Haute-Provence, que je remercie. Voilà.
Jacqueline, merci. Hier, on a pu voir un film sur les dangers du sport aussi pour les jeunes filles en ce qui concerne les agressions sexuelles. Est-ce que vous voulez en dire un mot ?
Oui, eh bien, ce sont des agressions qui se sont révélées grâce à des livres qui ont été faits par les victimes elles-mêmes. Je pense à Sarah Abitbol en ce qui concerne le patinage artistique. Mais hier, il s'agissait effectivement d'une joueuse de tennis, Isabelle de Mongeau, qui a été abusée par son entraîneur pendant des années. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la situation d'emprise que ces entraîneurs ont sur les jeunes filles, qui font que ces jeunes filles ne sont pas capables de résister ou pas capables de dénoncer ce qui leur arrive. Donc c'est aussi très dur pour elles de porter plainte, parce que la justice ne comprend pas vraiment cette emprise des hommes qui ont toute autorité sur ces jeunes filles. Que ce soit les entraîneurs ou que ce soit les pères, c'est un phénomène d'inceste d'une manière générale. Ça fait partie des violences masculines faites aux femmes que l'on dénonce et qu'on voudrait voir ne pas rester impunies, bien sûr.
Merci, bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir.
À la semaine prochaine, au revoir.